Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, vieillissement, comment repenser le pacte intergénérationnel? Alors que les manifestations autour de la réforme des retraites et de leur financement se multiplient, en particulier aujourd'hui, avec la journée de grève intersyndicale, nous avons saisi l'occasion de la Semaine Bleue, Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Âgées, pour ouvrir une réflexion sur ce qu'on nomme le pacte intergénérationnel. Comment assurer la solidarité entre générations dans une société où cohabitent désormais quatre générations, alors qu'en 1945, lors de l'invention de la sécurité sociale, il n'y en avait alors que trois. Faut-il repenser la transmission de l'héritage en sautant une génération? Comment assurer la cohabitation entre jeunes, adultes et personnes âgées dans une même société? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Jean-Marie Robine, il est démographe, directeur de recherche à l'INSERM. Il est en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Hérault à Montpellier, que nous remercions de l'y accueillir. Armelle de Guibert est déléguée générale des Petits Frères des Pauvres. Elle est avec nous ce soir, et Anne-Marie Guilmard est professeure en sociologie à Paris Descartes Sorbonne, et elle fait partie de ceux, et peut-être même celle qui a forgé le terme de pacte intergénérationnel. On en parlera avec elle tout à l'heure.
Ah, je ne vivrai plus sans personne, non. Mais je suis une angoissée de nature, donc il faut compter avec ça. Surtout quand on vous dit, est-ce que vous prendriez bien un garçon ? Et que vous êtes toute seule. Là, j'ai un peu piqué. Et puis, il y a eu un feeling entre nous. Et...
Oui. Moi, je n'ai jamais eu la chance de connaître mes grands-parents. Mes grands-parents paternels comme maternels sont décédés avant même que mon père et ma mère soient adolescents. Donc, je pense que je fais mon rattrapage, là. C'est ma grand-mère de France, en fait. Et ça me ferait, en fait, gagner sur les deux plans. Sur le plan financier, je ne paye pas de loyer et tout. Je fais des prestations, mais c'est juste d'ordre occasionnel. Et de l'autre côté, moi, là, je suis inséré dans une famille. Je peux dire, pour résumer, au fait, qu'on s'est adopté, elle et moi.
On n'a pas peur de se confier l'un à l'autre. On a confiance. Hein. Et ça, je crois que ça, c'est merveilleux pour la cohabitation.
Voilà un témoignage, celui de Monique, 95 ans, et de Jean-Marie, étudiant en droit de 27 ans, qui vivent ensemble. C'est un témoignage recueilli par France Bleu Béarn en avril dernier. Nous sommes à Pau, ils vivent ensemble, elle met à disposition une chambre de son logement, il apporte sa compagnie, donne quelques coups de main. C'est le principe de la colocation intergénérationnelle qui s'est développée depuis plusieurs années, déjà dans les associations, mais également à l'initiative d'une association comme la vôtre. Bonsoir Armelle de Guibert, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce premier point de cet intergénérationnel, c'est-à-dire vivre ensemble alors qu'on n'est pas de la même génération et pas de la même famille. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'avoir invité. On a cette expérience au quotidien, aux Petits Frères des Pauvres, puisque on fait tout pour favoriser le lien entre les générations, que ce soit dans nos séjours de vacances. Hein. On voit d'ailleurs des jeunes qui sortent toujours de ces séjours, qui disent au début on fait ça pour se rendre utile et puis on s'enrichit au contact parce que les personnes âgées, elles trichent pas. Et donc c'est comment dans notre société on peut favoriser ces rencontres dans une société qui a peur, qui est parfois même dans une forme de paranoïa. Comment les associations, mais aussi les médias, et vous y participez avec cette émission ce soir, peuvent donner envie d'aller à la rencontre de l'autre. Vous avez parlé de pacte intergénérationnel. Moi, j'ai envie de reparler de comment on redéfinit un contrat social où les personnes âgées ont toute leur place. Et ça veut dire de repenser aussi les valeurs de notre société qui valorisent une certaine forme de performance qui n'est pas celle que peuvent mettre en œuvre les personnes âgées, alors qu'elles sont extrêmement riches de leur expérience, qu'elles peuvent transmettre, et c'est ça qu'il faut réinventer.
Alors, vous êtes l'inventeur, je ne sais pas comment on dit avec un E, de ce terme de pacte intergénérationnel. Anne-Marie Guilmard, vous êtes professeure émérite de sociologie à Paris Descartes Sorbonne. Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser ce terme de pacte intergénérationnel plutôt que celui de contrat entre les générations comme on le faisait auparavant? Et qu'est-ce que ça apporte, ce terme de pacte, justement, à l'idée que l'on peut se faire de la cohabitation dans une même société de trois, mais plutôt de quatre générations aujourd'hui, comme dans la société française aujourd'hui.
Oui, merci, bonjour.
Alors, pourquoi pacte ? D'abord parce qu'il est implicite. Et ce dont je parle, c'est un pacte de solidarité entre les générations. C'est à la fois un pacte au sein de la société, c'est-à-dire qui régit les transferts publics et finalement...
Les transferts, vous voulez dire transferts d'argent,
par exemple ? Les transferts publics. Mmh. Puisque la retraite en est un, et beaucoup d'autres. Donc, toutes les politiques publiques qui décident de la manière dont les transferts doivent circuler entre les générations. Et derrière la fondation de la Sécurité sociale...
En 1945,
il y avait cette idée de pacte de solidarité intergénérationnel.
Vous voulez dire que c'est dès le départ,
dès le départ, parce que on crée un système par répartition. Mmh. Et un système par répartition, ça veut dire que ce sont les actifs qui financent les retraites la même année, au même moment. Hein. C'est différent d'un système par capitalisation où chacun verse des contributions qui vont sur
un compte.
Sur un fonds, un compte, et qu'ils retrouveront au moment de la retraite. Donc, derrière la fondation d'un système de retraite par répartition, au cœur de ce système,
il y a bien l'idée de transfert entre les générations.
Un pacte de solidarité intergénérationnelle. Et c'est l'idée qu'aucune génération ne peut se sauver seule.
Mais c'est un pacte mis en danger depuis pas mal d'années maintenant, plusieurs décennies, parce qu'effectivement, l'allongement de la durée de la vie change le pacte d'une certaine façon.
Voilà, ce pacte a très bien fonctionné, parce que dans les années 80, la retraite, c'était un rêve de jeunesse. Les jeunes, dans les sondages sur la retraite, disaient vivement la retraite. Mmh. Donc c'était le rêve de jeunesse. Par contre, les plus âgés qui approchaient de la retraite disaient « Oh là là, oui, mais je vais avoir des problèmes de santé, je vais avoir des problèmes de ressources. » Donc c'était un rêve de jeunesse. Et aujourd'hui, les mêmes sondages...
Disent le contraire.
Disent que
en tout cas pour les jeunes,
les jeunes répondent « La retraite, mais j'en aurai pas. Mmh. Et on ne me laisse que des dettes. » Donc on voit bien que ce pacte, il est aujourd'hui en miettes.
Jean-Marie Robin, vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Hérault à Montpellier. Vous êtes, je rappelle, démographe et directeur de recherche à l'INSERM. Vous réfléchissez beaucoup, justement, en tant que démographe, à cette idée de le vieillissement de nos sociétés et des conséquences que cela peut avoir, justement, sur l'accumulation des générations dans une même société et le fait qu'aujourd'hui, à quatre générations et peut-être bientôt cinq, on ne sait jamais, eh bien, on va se retrouver avec des situations très différentes de celles qui ont été décrites à l'instant même par Anne-Marie Guillemard en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour.
Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Et bon, je suis très contente de participer à ce débat qui me semble effectivement extrêmement important et qu'on doit mener pendant longtemps. On a le temps. Moi, je voudrais d'abord être tout à fait rassurant. Quand on parle d'évolution démographique, on parle d'évolutions qui se produisent lentement. Mmh. Mais elles se produisent. Et après quelques dizaines d'années, on voit que les choses ont beaucoup changé. L'espérance de vie a augmenté de plusieurs années, par exemple.
Oui, c'est le cas, par exemple, pour cette espérance de vie dont on a dit qu'elle gagnait un trimestre par an pendant une certaine période, il n'y a pas si longtemps que cela. Et donc, effectivement, on est dans une situation d'allongement de la durée de la vie. Évidemment, les transhumanistes rêvent même de la possibilité d'aller jusqu'à 120, 130 ou 150 ans en très bonne santé, ce qui, évidemment, n'est peut-être pas le cas, mais qui, en tous les cas, pose de véritables questions de redistribution, à la fois des richesses, mais également du travail, et également des places dans la société entre générations, Jean-Marie Robin.
Oui, et je vais essayer d'être très simple pour les auditeurs. On va retourner un petit peu à l'école. En fait, dans ma discipline, à la fois la démographie et l'épidémiologie, on a affaire à des problèmes de baignoire. Et donc, des baignoires qu'on remplit et qu'on vide. Donc, en fait, l'affaire, c'est on a des flux. Alors, c'est par exemple les taux de naissance ou les taux de mortalité. Et puis, on a des stocks. C'est par exemple le volume de la population. Mais en fait, c'est comme une baignoire qui se remplit avec des robinets, etc., et qui se vide. Et la relation entre tout ça, c'est le temps passé, c'est la durée. Et donc, si effectivement les gens meurent moins, les transitions ralentissent, hein, donc ce sont des transitions, ce sont des flux, eh bien les durées s'allongent. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été réfléchi. Et c'est vrai que l'espérance de vie s'allonge. Et ça, tout le monde le vit de façon positive. Mais avec l'allongement de l'espérance de vie, on allonge en fait toutes les transitions de la vie. Et dans certaines transitions, il y a des transitions sociales, il y a aussi des transitions économiques. Et de ce point de vue-là, tout est ralenti. Et effectivement, je pense que ça pose plein de questions, et en particulier, vous l'avez cité en introduction, ça pose la question de la circulation des richesses, de la circulation du patrimoine. Et aujourd'hui, tout circule extrêmement lentement parce que les temps de vie se sont allongés et parce que les gens, dans une position, y restent très longtemps, toutes les positions.
Il faut donc dire effectivement que votre idée, Jean-Marie Robine, en tant que démographe, c'est que les durées de vie s'allongeant, les générations devenant donc beaucoup plus longues pour chacune d'entre elles, eh bien aujourd'hui on arrive à un moment où l'héritage qui auparavant était dévolu à des enfants qui étaient encore dans le métier, qui étaient encore en population active, aujourd'hui arrive à des enfants qui sont lors du décès de leurs parents, qui sont retraités parfois, et donc effectivement cet héritage, dites-vous, a peut-être moins de nécessité puisqu'il ne joue pas son rôle habituel de redistribution entre générations, mais il joue un rôle pour des gens qui sont donc déjà à la retraite et qui peut-être pourraient, cet héritage, sauter une génération et arriver à des plus jeunes d'une génération postérieure. C'est ça votre idée, Jean-Marie Robine ?
Alors, c'est une des idées, c'est sûrement la principale idée. Donc effectivement, alors la répartition, elle se produit, mais elle est ralentie. Et donc effectivement, bah, vous savez, les héritiers avaient 20 ans. Donc les gens, habituellement, bon, on recule de peut-être une centaine d'années, mais au moment de l'héritage, ou même au moment de l'acquisition du métier de son père, ou de la propriété agricole, les gens étaient en début de carrière. Et donc c'était effectivement...
Vous voyez qu'on héritait à 20-25 ans, on héritait de son père ou de ses parents, parce que la durée de vie était très, très, très faible à 45 ou 50 ans, c'est ce que vous voulez dire.
Parce que la durée de vie était beaucoup plus courte. Et puis, dans les années peut-être 50, on héritait plutôt vers 40 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, on hérite plutôt effectivement à 60, 65 ans. Donc, on hérite lorsque on est un jeune retraité. Et vraiment, on n'a pas vraiment besoin d'un coup de pouce pour démarrer dans la vie lorsqu'on est retraité. La maison de famille n'existe plus. Parce qu'il est bien évident que quand on hérite de la maison du grand-père, ben, si on est soi-même retraité, on espère que c'est sa propre maison qui va devenir maison de famille. Et donc l'idée, c'est d'accélérer tout simplement ces transitions, en considérant que autrefois il n'y avait que trois générations en jeu essentiellement, donc il y avait les enfants, les parents et les grands-parents, et donc la circulation se passait finalement sur une période de temps relativement courte, et l'héritage, mais il n'y a pas que l'héritage, hein, l'héritage, il y a aussi les positions sociales, il y a aussi le travail, finalement revenait aux jeunes adultes assez tôt. Et donc là, l'idée, puisque maintenant il y a quatre générations, il y aura de plus en plus dans toutes les familles quatre générations présentes au même moment, et peut-être un jour une cinquième, c'est effectivement d'apparier les générations deux à deux. Personne n'est perdant dans cette affaire, sauf une.
Qu'est-ce que vous voulez dire très brièvement ?
Celle du démarrage.
Qu'est-ce que vous voulez dire très brièvement avec apparier les générations deux à deux ?
Eh bien, par exemple, donc si on part avec des enfants, des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents. L'héritage des arrière-grands-parents vont aux parents. L'héritage des grands-parents vont aux petits-enfants. Ça veut dire qu'en fait, on coupe par deux le temps.
On raccourcit le cycle.
Tout le monde dans ce système-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on divisait la fortune de la France en deux paquets, en deux équipes, et donc on fait circuler deux fois plus vite cette fortune.
J'ai donné la parole aux autres intervenants à cette discussion, Anne-Marie Guillemard d'abord, et puis Armelle de Guibert, des petits frères du pauvre, ensuite Anne-Marie Guillemard.
Oui, merci beaucoup. Oui, ce que je dis, Jean-Marie Robine, j'adhère, mais bon, ça c'est à l'intérieur de la famille, donc effectivement, mais aussi il y a la société. Il y a tous les transferts qui ont été organisés en 45.
Par l'intermédiaire.
Et qui règlent la solidarité entre les générations au niveau des transferts publics. Notamment, la retraite, c'était quoi ? C'était un pacte mutuellement profitable pour les trois générations en présence. les retraités avaient gagné un droit à la retraite, c'est-à-dire quelques années de repos à l'époque. Ça faisait quelques années, la retraite. Aujourd'hui, c'est 28 ans, la retraite, pour donner une image. Et en échange de quoi, les actifs se préservaient l'emploi de manière stable et durable. La carrière, c'était 50 ans de vie active à l'époque. Et moyennant quoi, grâce aux allocations familiales, à tout le système de protection sociale, les actifs pouvaient financer la retraite des vieux et l'éducation de leurs enfants et la protection de la famille. Mais on n'est plus dans cette logique-là, et on voit bien que, pour moi, si vous voulez, refonder le pacte de solidarité entre les générations, c'est quelque chose qui est vraiment le grand défi du XXIe siècle, tout autant que l'écologie.
Et c'est un défi public et politique.
C'est un défi public et politique, à la fois intrafamilial aussi, mais public. Et c'est un défi considérable de revenir à un pacte de solidarité mutuellement profitable pour les quatre générations co-présentes.
Armelle de Guibert, effectivement, vous êtes déléguée générale des Petits Frères des Pauvres. Tout le monde n'a pas d'héritage, comme vient de le mentionner Jean-Marie Robine. Et cette question est encore compliquée par autre chose, le coût des maisons de retraite, le coût des EHPAD, qui, d'une certaine façon, pèse de façon très forte. Quand justement on n'a pas l'argent pour pouvoir payer cette EHPAD, par exemple, sur la génération suivante et qui pose des problèmes d'appauvrissement des générations suivantes parce qu'on n'arrive pas toujours à payer justement la maison de retraite ou l'EHPAD de ses parents.
Alors tout à fait, c'est ce qu'on constate aux Petits Frères des Pauvres. Il faut savoir que plus de 50% des personnes qu'on accompagne ont un revenu de moins de 1000 euros. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on entend sur les retraités très riches, il y en a sûrement, et on peut pas aller contre les statistiques qui disent que en France, on a des retraités qui ont un niveau de vie au-dessus des classes actives. Il n'en reste pas moins qu'il y a des retraités pauvres, très pauvres, et ce sont principalement des femmes et des femmes de plus de 85 ans. Et c'est vrai que tout le système qui a été fondé depuis Napoléon, qui est fondé sur la solidarité familiale, est quelque part profondément injuste, puisqu'il reproduit les pauvretés de génération en génération. Je donne un exemple très simple. Si vous-même, vous avez été élevé de manière extrêmement modeste, que vous avez la chance de vous être élevé, grâce à la méritocratie, même si on voit que ça fonctionne de moins en moins, si vos parents ne sont pas propriétaires, qu'ils sont locataires, par exemple, en HLM, et ont une retraite très très basse, eh bien, si la question de l'entrée en EHPAD se pose, eh bien, on viendra vous rappeler.
C'est votre patrimoine à vous.
Voilà, c'est votre patrimoine à vous. Et au-delà de la solidarité, parce que donc il y a deux choses qui ont été abordées, le système de la succession et la nécessité éventuellement de la réinventer, mais ça ne se produit que pour des gens qui ont des revenus et des patrimoines, ce qui n'est pas le cas de tous les Français. Et deuxièmement, vous avez parlé de la solidarité, qui est les transferts entre générations, tels qu'organisés par l'État et plus ou moins consentis par les citoyens. On parle beaucoup de ça au niveau des impôts. Nous, Petits Frères des Pauvres, ce qu'on a envie de réhabiliter, c'est la notion de fraternité, troisième pilier de notre République, souvent oublié. Et c'est comment est-ce que c'est pas le moment de réinventer notre manière de faire société et de se dire comment chacun en est responsable des autres et pourquoi tout doit peser sur la famille.
Et puis, il est vrai parfois que ce sont les personnes âgées qui s'inquiètent aussi pour les personnes les plus jeunes, comme c'est le cas d'Alice. C'est sur France Info aujourd'hui que ce son a été enregistré et diffusé. Elle est retraitée, elle constate que l'accès au marché du travail est de plus en plus difficile pour les jeunes dans sa propre famille. Elle s'en inquiète.
J'ai un neveu qui ne trouve pas de travail alors qu'il a fait des études. Il a fait commerce international. Bon, il a trouvé quand même du travail, mais au SMIC, enfin bon, voilà. Et ben, c'est du boulot dans les services, plutôt dans la restauration, dans les choses comme ça. Mais c'est ponctuel en fait, parce que quand on leur demande, il y a beaucoup, beaucoup maintenant de contrats précaires comme ça qui permettent pas aux gens de vivre.
Le pacte intergénérationnel, c'est cela aussi, Anne-Marie Guillemard? C'est l'argent qui peut venir des grands-parents ou des arrière-grands-parents pour aider les petits-fils ou les arrière-petits-enfants à faire des études ou à travailler ou à vivre,
oui, simplement? Non, moi je le repasse dans la solidarité sociétale, parce que si c'est un enjeu majeur du 21e siècle, c'est parce que c'est une manière de rétablir l'adhésion démocratique et la cohésion sociale. Et on en a bien besoin. Donc, il faut repenser toutes les politiques de transfert à l'aune d'une équité entre les quatre générations coexistantes aujourd'hui. C'est ça le grand chantier, il me semble, et le chantier prioritaire. Et comment on fait? Eh bien, je crois qu'il faut, pour rétablir cette équité, il faut que les contributions soient les contributions qu'on a faites tout au long de sa vie par rapport aux autres générations, s'équilibrent avec les rétributions qu'on va en recevoir.
Donc retrouver le système de 45, ce que vous
voilà, dites, c'est retrouver le système. Il faut revenir à l'esprit des origines. Mais il faut repenser donc tous ces deals solidaires. Et on ne l'a pas fait du tout. On a pensé de manière technocratique à une réforme des retraites qui coûterait moins cher. On contenait les efforts financiers.
Vous avez été longtemps au Conseil d'orientation des retraites, oui. Anne-Marie Guillemard. Oui. Quand vous disiez cela, est-ce que c'était entendu par tous ceux qui étaient autour de vous, justement? Est-ce que vous aviez l'impression que l'oreille gouvernementale, quel que soit le gouvernement, d'ailleurs celui-ci ou les précédents, était ouverte à ce type de proposition?
Non, quand on est dans une logique technocratique, il faut que ça coûte moins, etc., ce n'était pas entendu. Mais j'ai l'impression que dans la réforme des retraites en cours, par Monsieur Delvoye, c'est entendu, et le pacte de solidarité intergénérationnelle figure dans ses recommandations.
Mais on peut le mettre dans une recommandation sans pour autant le charger de tout ce que vous expliquez derrière, c'est-à-dire le retour à l'esprit de 45, le retour à la solidarité entre les générations.
Retrouver des deals solidaires. Il faut inventer des deals solidaires, et votre intervenante de tout à l'heure, là, à l'instant, parlait de l'équilibre entre l'éducation, l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Tout ça, c'est ça des deals solidaires. C'est d'accord, on dit aux jeunes de travailler plus tard, hein, de prolonger leur vie active, mais en échange de quoi? On va leur donner les moyens de s'insérer plus rapidement dans l'emploi.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. D'autres projets, vous voyez, je vais baiser, boire et fumer, je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans vous voir ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
Le temps du débat ce soir s'intéresse à la question du vieillissement. Comment repenser le pacte intergénérationnel et comment le repenser avec Brigitte Fontaine, retraitée très active. Je vois que vous souriez, Armelle de Guibert, en écoutant justement un titre aussi provocateur que celui-là. Je suis vieille, mais j'en ai rien à faire d'une certaine façon.
Mais oui, mais elle a raison. Alors oui, je souris parce que j'adore Brigitte Fontaine. J'étais prête à danser dans votre studio. Oui, et elle exprime ce que beaucoup de gens qui ont aujourd'hui 75 ans disent. C'est-à-dire que ce qu'ont accepté des personnes qui ont aujourd'hui 85-90 ans en termes d'habitat, cette mise au banc des vieux. Pourquoi on a aussi cette image négative du mot vieux? Vieux, c'est vie. Ça doit nous amener à repenser pourquoi justement on a cette image aussi négative? Pourquoi dès qu'il s'agit des personnes âgées, ça nous paraît normal de limiter leur liberté? Quand on entend effectivement le fait d'avoir des lieux où on se demande s'ils ont le droit de sortir, d'avoir des visites, etc. Quand on oppose EHPAD, donc maison de retraite pour ceux qui ne connaissent pas, et logique domiciliaire, je pense qu'il faut vraiment sortir de là et réinventer avec les personnes âgées concernées, ce qu'on fait aux petits frères des pauvres, des lieux qui correspondent à leur manière d'avoir envie de vivre, leur manière de baiser, comme dit Madame Fontaine, leur envie, respecter leur choix jusqu'au bout de la vie.
Oui, sur ce point, Anne-Marie Guillemard, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a que deux choix. On est à la maison. Et on dit c'est formidable d'être à la maison quand on est une personne âgée, ou on va en EHPAD, et aucun autre choix dans notre pays. Et vous dites il faut multiplier les choix, et je donnerai ensuite la parole à Jean-Marie Robine.
Bien sûr, il faut sortir de cette dichotomie qui est très française entre l'EHPAD et rester à son domicile. Alors face à cette dichotomie, les personnes âgées choisissent le domicile, bien sûr. Mais si on augmentait les options, les possibilités,
si on
ouvrait, de choix
on
de
l'éventail.
Vie, voilà, parce qu'on peut peut-être venir avoir envie de vivre comme colocataire ou si on a un problème d'isolement dans un appartement avec d'autres personnes. Enfin, il y a toutes sortes de formules intermédiaires entre le domicile et les EHPAD médicalisés. Mais nous sommes dans une logique très française où les vieux sont dépendants et relèvent de soins. Donc de la médecine, ils sont médicalisés.
Jean-Marie Robine, ça fait partie aussi des réflexions du démographe que vous êtes, de penser effectivement à cette question qui obsède, c'est peut-être pas la vieillesse qui obsède, mais c'est la vieillesse en bonne santé, c'est la vieillesse dans la meilleure santé possible qui obsède beaucoup de nos contemporains, et on peut le comprendre.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais je voudrais d'abord dire que je partage tout à fait la vie d'Armel de Guibert et d'Anne-Marie Guillemard. On doit refonder ce pacte de solidarité intergénérationnelle qu'on a mis en place en 1945. Il y a à l'évidence beaucoup plus d'intérêt à un système qui repose sur la répartition, bon, malheureusement j'aurais pas le temps d'expliquer pourquoi, que effectivement si on cotise chacun de son côté.
Mais
savoir qu'en 1945, quand le système a été mis en place, les gens partaient à la retraite à 65 ans et l'espérance de vie était de 70 ans. Donc on cotisait une longue vie pour 5 années de retraite. Si l'espérance de vie avait été celle qu'elle est aujourd'hui, en 1945, avec cet esprit de 1945, on n'aurait pas créé 4 risques, on aurait créé 5 risques. Ce fameux 5e risque de la sécurité sociale.
Qu'est-ce qu'on appelle le 5e risque ?
Voilà. Et le 5e risque, c'est en fait de prendre solidairement le risque de perte d'autonomie et de dépendance. Donc ça englobe par exemple le fait qu'on doit aller vivre dans une maison de retraite, dans une EHPAD. Et effectivement de ne pas laisser à la charge des familles une dépense qui est essentiellement liée à la vieillesse, à l'état de santé, à l'incapacité qui s'accumule chez ces personnes très âgées.
Et concrètement, on le fait comment ce 5e risque ? Donc comment invente-t-on ce nouveau système où il y aurait un 5e risque sur la question de l'assurance de soins de longue durée, par exemple.
Eh bien, là, oui, c'est ça, les soins de longue durée, la perte d'autonomie, la nécessité de vivre en maison de retraite ou en EHPAD seraient payés collectivement, comme aujourd'hui, et payer collectivement le chômage, la maladie, la maternité, etc. C'est-à-dire que la grande vieillesse, mais l'incapacité chez des personnes qui peuvent avoir des accidents de la vie plus tôt, serait entièrement pris en charge collectivement dans, effectivement, cette solidarité intergénérationnelle.
Mais vous comprenez bien qu'on n'en prend pas véritablement le chemin. On voit bien combien la question du privé, la question des assurances est très proche de ces questions-là, et que la question de la solidarité intergénérationnelle par un système de répartition n'est pas tout à fait au cœur de la discussion aujourd'hui.
C'est pourtant...
Hélas.
Non, mais j'entends Anne-Marie Guillemard qui dit hélas et Armelle de Guibert qui intervient. Une dernière remarque sur ce point. Ça n'est pas vraiment dans l'air du temps, Jean-Marie Robin. Je ne dis pas qu'il...
Si, ça l'est. Si, c'est dans l'air du temps. On en discute depuis plus de 20 ans. Mmh. On avance doucement. Les sommes en jeu ont l'air considérables. Mais en fait, elles ne le sont pas tellement. Parce qu'il s'agit de cotisations qui seraient prises en charge par l'ensemble de la population pour des dépenses qui est bien plus tard. Ce que je voudrais dire là, par exemple, aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est effectivement ce grand âge, cette grande victoire. Les gens vivent beaucoup plus longtemps qu'en 1945. Eh bien, effectivement, les arrière-grands-parents, donc ont plus de 85 ans, ben, les cotisations sont fournies par qui ? Ce sont leurs petits-enfants qui sont au travail. Leurs propres enfants sont déjà des retraités. Mmh. Donc, en fait, le système repose déjà sur ces générations. C'est déjà essentiellement les petits-enfants qui aujourd'hui cotisent pour la prise en charge, les soins, l'hospitalisation de longue durée de leurs grands-parents. Donc je pense que il suffit de clarifier tout ça et vraiment quand on discute avec la population, pas uniquement avec les enfants, les personnes âgées, lorsqu'on pose ces questions en ces termes, les termes posés par Anne-Marie Guillemard, en termes de solidarité intergénérationnelle, je connais personne, d'ailleurs on le voit bien, qui est content de voir par exemple que les retraites des personnes âgées sont en train de perdre de la valeur. Il n'y a pas un jeune qui est d'accord avec ça.
Armelle de Guibert et puis Anne-Marie Guillemard.
Sur le financement du cinquième risque et le risque de perte d'autonomie, dans le rapport Libault, qui prépare la loi Grand Âge et Autonomie...
Devrait être votée en décembre, c'est ça ?
En décembre, c'est une des propositions qui est mise en avant, avec un financement via la CSG. Mmh. Donc ça fait partie des propositions. Je ne sais pas si elle va être retenue, mais ça existe.
Vous préféreriez qu'elle le soit.
On préférait qu'elle le soit, donc c'est un financement possible. Et sur les habitats alternatifs, citoyens, participatifs, on peut les appeler de manière différente, il y a eu des ouvertures via la loi Élan. Et je me félicite que la présidente du CNSA, Marianne Monchamp, promeut partout cette forme d'habitat et dit aux autorités de financement, mais lâchez la bride un peu aux personnes, aux associations qui ont envie d'inventer des solutions innovantes.
Donc ces maisons où par exemple des retraités veulent
des colocations de personnes où on mutualise en fait les aides.
Et pourquoi on les empêche de le faire alors pour l'instant?
Aujourd'hui, c'est parce que c'est l'excès de normes à la française où on est obligé de rentrer dans des cases. Donc soit on est dans du logement et c'est compliqué de mettre en place des aides ou d'avoir des financements au moins pour la coordination, soit on rentre dans la catégorie établissement social et médico-social, il faut répondre à des appels à projets. Donc là, je m'en félicite, la loi Élan dans son article 129 a prévu la possibilité de créer ce genre de structure que nous on appelle le participatif et citoyen. Maintenant, il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas un excès de normes qui nous empêche de créer de la liberté.
Anne-Marie Guillemard, sur ces questions, en particulier de ce cinquième risque.
Oui, ce cinquième risque est absolument indispensable avec l'allongement de la vie. C'est une bonne nouvelle quand même. Et on a une sorte de on a des responsables qui sont frileux et qui ont l'impression que ça va coûter cher. À chaque fois en France, on a reculé cette issue de construire un vrai cinquième risque ou un soin de longue durée, comme l'ont fait les autres pays. Le Japon et autour de nous en Europe, l'Allemagne, le Luxembourg et beaucoup d'autres. La question, c'est quand l'allongement de la vie suppose d'avoir des maladies chroniques, donc des besoins croissant en soins de longue durée. Et donc, il faut mettre en place une nouvelle assurance, un cinquième risque, c'est pour ça, du même type, avec des cotisations de chacun. Au Japon, c'est les plus de 40 ans qui cotisent. Et au Japon, le bilan, c'est que ça fait 1,2 de PIB. C'est pas la mer à boire. Pour résoudre le problème des soins de longue durée.
Sur un autre point, Anne-Marie, Armelle de Guibert, nous étions avant-hier dans une journée nationale, la journée nationale des aidants. On n'en parle pas souvent, sauf à l'occasion d'une journée comme celle-ci. Les aidants, ça peut être le conjoint ou la conjointe lors d'une maladie de très longue durée, un Alzheimer ou d'autres choses comme ça, mais ça peut être aussi les enfants, voire les petits-enfants, et on est encore dans l'intergénérationnel.
Oui, alors d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que souvent les aidants, c'est principalement des femmes. C'est les femmes entre 60 et 75 ans qui sont souvent à la fois des aidantes de leurs parents âgés, mais aussi aidantes des plus jeunes qui peuvent avoir des difficultés à l'emploi pour la garde d'enfants.
Et c'est ce qu'on appelle dans ces cas-là le sens d'aidant, c'est quoi exactement? C'est donc, ce sont des gens qui sont aux côtés d'eux pour pouvoir pallier les difficultés de la vie de chacun d'entre eux.
Oui, tout à fait. C'est l'entourage qui permet tout simplement à ceux qui sont en situation de vulnérabilité de vivre correctement. Et c'est vrai qu'on voit que parfois les aidants ça s'épuise avant les aider, et que c'est un vrai problème de santé publique.
Oui, une des questions, effectivement, c'est d'aider les aidants, dit-on aujourd'hui, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui sont là pour supporter soit leurs parents, soit leurs grands-parents en grande difficulté, eh bien, sont généralement plus usés, plus rapidement, et deviennent eux-mêmes des personnes plus vulnérables.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau des plus frères des pauvres, traditionnellement, on accompagnait les personnes isolées. Et on s'est rendu compte, en fait, quand on va rendre des visites aux personnes qui sont en unité de soins longue durée, on rencontre ces aidants, principalement ces aidantes, qui vont voir leurs conjoints, que eux-mêmes sont dans un extrême isolement, du fait de cette pression, de cette charge, certes choisie, de s'occuper de l'autre. Et du coup, de plus en plus, nous-mêmes, on accompagne des aidants et des aidantes parce qu'on se rend compte qu'ils sont isolés et aussi en grand danger de solitude parce que cette charge est tellement importante et prégnante qu'ils s'épuisent et ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes se confier à d'autres.
Et Anne-Marie Guillemard, quand vous avez inventé ce terme de pacte intergénérationnel, vous pensiez qu'il y avait tant de choses à mettre dessous, sous ce terme-là, c'est-à-dire autant de variétés d'approches que celles qu'on vient d'avoir dans 40 minutes de discussion autour de cette table?
Pas au départ, mais au fur et à mesure de mon travail. Pour moi, maintenant, il est clair que nous devons refonder ce pacte de solidarité entre les générations, à la fois au niveau de la retraite, de l'emploi, de l'éducation et du care, qui est devenu tous les soins. Parce que il y a cet échange de soins entre générations et il n'est pas normal qu'aujourd'hui le soin aux personnes très âgées incombe trop largement à la famille et pèse largement sur la famille et notamment les retraités, la génération de retraités jeunes.
Jean-Marie Robin, un dernier mot. Vous êtes démographe. Les projections que peuvent faire les démographes nous conduisent à des idées assez importantes de vieillissement de la population en 2050. Très brièvement, on se retrouvera avec des situations de super seniors, comme on ose dire aujourd'hui, d'ici 2050 ou 2070.
Oui, absolument. Et si vous me permettez, je voudrais très brièvement deux choses. C'est ce qu'on est en train de dire va se généraliser parce que il y aura effectivement ce qui n'est pas encore le cas de toutes les familles. On va avoir ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire des aidants familiaux qui sont âgés de 70 ans, qui s'épuisent à s'occuper de leur maman de 95 ans, par exemple. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir que c'est une première. Souvent dans les familles, c'est une première expérience. Et donc les familles ne savent pas comment faire et ne se sont pas préparées à ça. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui va changer de façon dynamique. C'est qu'on va apprendre qu'effectivement, on vit très longtemps et qu'à un moment dans sa vie, âgé peut-être de 70 ans, ben on a un nouveau rôle qui est qu'on a des parents très très âgés et qu'il faut s'occuper d'eux d'une façon ou d'une autre, mais eux-mêmes vont s'organiser par rapport à ça. Vous voyez, on est en train de... les premières personnes qui vivent au-delà de 90 ans, ceux qui atteignent 100 ans ou ces super centenaires, ils sont les premiers surpris d'en arriver là. Donc, ils n'ont rien prévu pour ça. Et eux-mêmes, à l'époque où il fallait cotiser pour des retraites, ils n'ont pas pensé à des sur-retraites ou à un cinquième risque. Maintenant, on en est là et il faut qu'on arrive à savoir faire toutes ces transitions.
Merci à vous trois. Merci à vous, Armel de Guibert, délégué général des Petits Frères des Pauvres. Merci à vous, Anne-Marie Guillemard, donc professeure de sociologie à Paris Descartes Sorbonne. Et merci à vous, Jean-Marie Robin, ainsi qu'à nos confrères de France Bleu Héros à Montpellier qui vous ont accueillis. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Bay, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.